France Culture.
Est-ce que vous voulez bien nous dire quelques mots pour régler votre micro ?
Bonjour.
France Culture.
Je m'appelle Dieudonné Nyonguna.
Le Book Club.
Voilà, je suis dramaturge, romancier, poète. Mon activité se résume entre écrire et aller sur une scène de théâtre.
On refait un petit essai avec ce nouveau micro.
Oui, l'émission va durer une heure.
Ouais.
Dans la bibliothèque de Dieudonné Nyonguna.
Voilà, on va voir comment les lectures vont se dérouler. Puis les questions.
C'est bon pour toi, Mathieu ?
Marie Richeux.
10 anges gardiens et plusieurs ailes d'ange. Voilà comment vous décrivez vos rayonnages Dieudonné Nyonguna, en des termes célestes donc. Sans oublier de préciser que les rayons poésie et théâtre dépassent en quantité tous les autres. C'est-à-dire que beaucoup de choses se fondent pour vous dans la poésie et dans le théâtre depuis le plus jeune âge, au Congo où vous avez grandi et dans les rayons d'une autre bibliothèque, celle de votre père, grammairien et ami de Léopold Sédar Senghor. Savoir ce qui de cette bibliothèque d'enfance est passé à l'autre bibliothèque, la vôtre maintenant, celle du poète, dramaturge, acteur, metteur en scène que vous êtes devenu, est l'une des choses qui nous rend curieuses et curieux. Savoir ce qui s'est fondé de si considérable dans votre découverte de la poétique de Sonny Laboutanci pour que des années après, vous y trouviez encore et toujours les ressources de puissance renouvelées nous rend curieux aussi. Vous parlez à son propos d'une énergie de marronnage, d'un flot proche du gueuloir, d'une approche physique que le texte rend palpable. Le théâtre et la littérature sont pour vous des questions de vie, de vitalité, pour ne pas dire de vie ou de mort. Il n'y a qu'à voir la précision et l'énergie avec laquelle vous avez répondu à notre invitation. Merci de déballer votre bibliothèque pour le Book Club. Dieudonné Nyonguna. Alors c'est quoi cette histoire d'ange gardien dans votre bibliothèque ? Et depuis quand c'est comme ça ?
Oui, c'est vrai. J'ai parlé d'ange gardien et c'est la scénographie que je donne à cette bibliothèque-là. Partout où je me retrouve, même s'il me faut déménager, je garde la même scénographie. Les anges gardiens, pourquoi ? Parce qu'il faut des anges pour garder une maison. Alors, je viens d'une culture qui est complètement animiste, donc la relation aux esprits est très importante dans mon parcours intellectuel et poétique. Un esprit, c'est pas forcément dans le sens magique, mais il y a quand même une beauté au fétichisme du livre. Puisque le livre, je l'aime comme objet, les mots, je les aime parce que je les considère comme des êtres avec lesquels je peux dialoguer, parce qu'ils m'influencent, parce qu'ils me parlent à ce moment-là, donc je considère qu'ils ont un esprit qui nous influence. Du coup, l'endroit où je garde les mots, plus ou moins où les mots me gardent, je préfère dire, je considère qu'il y a des anges qui sont des auteurs, bien évidemment, qui par leur poétique, par leur goût de la littérature, par leur relation à l'acte d'écrire, font évidemment office de parrain pour ce que j'écris, mais aussi ils tiennent lieu de gardien pour ma bibliothèque. Donc il y a ces anges gardiens-là, parce qu'ils délimitent en même temps certains rayons de la bibliothèque où des auteurs d'une certaine importance pour moi veillent à pouvoir faire de telle sorte qu'en piochant dans leur poétique, j'arrive à tenir, veillent pour que je ne périclite pas trop dans certains débordements qui pourraient toutefois me guetter, puisque quand on est comédien et qu'on écrit, c'est pas facile par rapport à l'endroit où on doit fixer les frontières. Donc les gardiens, les anges gardiens, servent aussi à ça, à me libérer, mais aussi à me dire, attention, là se trouve la ligne de démarcation.
Elle ressemble à cette bibliothèque, vous dites qu'elle a une scénographie presque permanente. Dieudonné Nyonguna, elle est comme ça depuis quand ?
Cette scénographie, j'ai commencé à l'imaginer autour de 10 ans, 18, 19 ans.
Votre âge à vous ?
Oui, de mon âge à moi. C'est-à-dire à partir de ce moment-là, j'ai commencé à scénographier ma bibliothèque. Les goûts y étaient déjà, de savoir que voilà, je place un tel en premier, tel auteur, faut qu'il soit au milieu, la poésie à tel endroit, tout et tout. Bon, ça, c'est plus ou moins quelques caprices comme ça qui arrivent par feeling, par goût. Mais à partir de 18-19 ans, ça devenait beaucoup plus politique plus que poétique, la manière de les placer, la manière de faire de telle manière que, voilà, c'est un tel qui verra en premier, l'autre secondairement, tout et tout.
En l'occurrence, vous racontez souvent que c'est Milan Kundera qui ouvre votre bibliothèque, qui est inaugurale, et que ça se terminerait par Shakespeare. Est-ce que c'est toujours le cas ?
Ah, mais ça bougerait jamais, c'est Milan Kundera qui ouvre ma bibliothèque. Ça ne veut pas dire que je le considère comme étant le plus grand de tout, des auteurs de tous les temps, mais parce que il a dit une chose que je trouve très très importante dans l'art de lire comme d'écrire. Il a dit, quand un auteur parle, il est important de savoir d'où il parle. Alors, une fois que je mets des livres côte à côte dans une espèce de scénographie qui portera le titre bibliothèque, la seule chose qui tiendrait, c'est celle d'abord de savoir que chaque auteur que je dois lire, il comptera parce que je saurai d'où il parle. C'est parce que je saurai d'où il parle que je serai dans une relation beaucoup plus, je dirais pas juste, mais beaucoup plus proche de savoir pourquoi il m'écrit ça, pourquoi ceci dit par lui me touche, et la même chose dit par un auteur ne me touchera pas de la même manière.
Comment est-ce que vous avez appris que on pouvait donner, en la classant, en la scénographiant, en la regardant, en la pensant d'une certaine manière, une dimension et poétique et politique à une bibliothèque, Dieudonné Nyanguna?
Parce que je considère que la bibliothèque est un organe vivant, parce que les mots sont vivants. Même couchés sur une feuille, ils restent vivants dès qu'on les regarde, dès qu'on les prononce, avant même qu'on les ait prononcés. Une fois qu'on rentre en contact avec, on se rend compte qu'au fait, derrière cette calligraphie couchée sur une feuille, derrière ce dessin, derrière, bien évidemment, ce caractère, on entend la voix de quelqu'un, la voix d'une autrice, la voix d'un auteur. Et cette voix qu'on entend est un esprit qui s'émeut. C'est un esprit qui s'émeut. Donc, en ce moment-là, je considère comme tous les êtres ont besoin des maisons. Ils ont leur façon à eux de circonscrire leur espace, de le délimiter, de savoir comment ils font leurs besoins, comment ils font leur chasse, comment ils font leur agriculture, comment ils pensent, à quel endroit ils dorment, à quel endroit ils boivent de l'eau. Donc je considère à cet endroit-là que la bibliothèque est une entité vivante, a besoin d'une respiration donnée, a besoin de son temps à lui où il dort, le temps où il veille, le temps où il mange, le temps où il respire. Donc par rapport aux livres que j'ai et aux relations que j'ai avec ces livres-là, je peux me dire, tiens, ça c'est l'heure à laquelle ma bibliothèque dort. Alors là, en ce moment-là, c'est dans la solitude de son coton de Bernard Marie Coltès.
Qui se réveille.
Qui se réveille, voilà. Ça c'est l'heure à laquelle je dois dire, get up, stand up for the right. En ce moment-là, c'est Aimé Césaire. Alors je le mets, bien évidemment, sur le troisième rayon qui est plus ou moins élevé pour dire, au bout du petit matin, va ton gueule de flic, disais-je. Voilà, donc une relation réellement avec ce que disent les auteurs par rapport à cette relation-là, je constitue un être qui s'appelle la bibliothèque.
J'ai cité la bibliothèque de votre père parce que vous-même, vous racontez avoir eu une relation importante avec cette grande bibliothèque, lui-même homme de lettres et ami de grands hommes de lettres. Il y avait peut-être des femmes quand même dans le coin, Dieudonné Nyanguna. Oui. Est-ce qu'il y avait d'autres bibliothèques dans votre enfance ou c'est vraiment celle-ci qui a été centrale ?
Si, il y en avait d'autres, mais celle de mon père était complètement la genèse de mon acte, non seulement de lire, puisque lire je commence par l'école, mais de rentrer en contact avec l'écriture, parce que j'arrive à l'écriture par la lecture, et ça s'est opéré dans la bibliothèque de mon père. En fait, il avait deux bibliothèques à la maison. Il y avait la bibliothèque familiale qui était au salon. Puis il y avait la bibliothèque de papa qui était dans une espèce d'antichambre, comme ça qu'on appelait le bureau de papa. On n'y allait pas. Il n'y avait que lui qui avait le droit d'y aller. Puisqu'il fermait à clé, c'est dans ce bureau-là qu'il travaillait. Alors c'était beaucoup plus grand que le salon.
Mais vous avez dû trouver la clé de temps en temps, sinon
non,
vous
n'auriez pas eu. Non, c'est pas moi qui ai voulu rentrer dans la bibliothèque, c'est lui qui m'enfermait dans sa bibliothèque à lui. C'est différent parce que la bibliothèque qui était au salon, c'était une espèce de tout pour le peuple, pour utiliser cette expression très congolaise. Mais celle de papa était justement rien que strictement réservée à papa, c'était sa bibliothèque, on n'y allait pas. Moi, il m'a enfermé dedans à partir de 7 ans. Voilà, il m'a dit, c'est la seule chose que je peux faire pour que tu ne sois pas moins perdu parce que tu me sembles être un enfant perdu. Je sais pas à quoi il lisait ça. Il ne disait que j'avais 6 ans et demi. Il avait décidé que de toute évidence, j'étais perdu à 6 ans et demi et que la seule façon de me trouver, comme dit Pirandello, c'était de m'enfermer dans sa bibliothèque.
Et alors, est-ce que c'était
donc,
une bonne intuition?
Il ouvrait avec sa clé. Il me faisait rentrer à l'intérieur. Il fermait derrière moi. Il emmenait la clé avec lui.
Ah ouais? Ça peut être effrayant quand on a 6 ans et demi.
Ben, vous savez, la mère de mon père était une conteuse traditionnelle et traditionaliste, sorcière guérisseuse, qui habitait dans son village à Massemolbaki, au milieu de la forêt, une excellente conteuse qui retraçait des épopées de sa culture Congo, Congo avec K, sous groupe Sundi, parce qu'elle avait été initiée, et dans sa tradition, il n'y a que les femmes qui comptent, il n'y a que les femmes qui guérissent. Canter et guérir font partie de la même cosmogonie, de la même bibliothèque de la cosmogonie Congo. Donc, elle était prêtresse Nsaku et en même temps Panzu. Donc, elle guérit et elle soigne avec les plantes et elle raconte des histoires pour soigner l'esprit. Donc, très jeune, au moment où mon père me fait rentrer dans la bibliothèque, c'était pendant la même période où on allait pendant les grandes vacances au village, chez la grand-mère. On y passait des mois à écouter ses contes, qui étaient des contes initiatiques, tous les jours, à partir de 18h, entre 18h et 22h. Et les samedis, c'était de 20h à 8h du matin, non-stop. Mais c'était pas des contes pour faire dormir les enfants. Ah non, non, c'était pas... c'était des contes initiatiques, mais qui faisaient flipper.
Donc alors, en fait, c'était bien plus effrayant d'être avec votre grand-mère.
C'était beaucoup plus effrayant d'être avec la grand-mère, parce qu'elle avait donc, entre cette littérature traditionnelle à laquelle elle était initiée par sa grand-mère, parce que ça se transmet de la grand-mère à la première petite fille. Et à côté, il y avait d'autres contes qu'elle inventait elle-même. Et alors ça, c'était le côté complètement dramaturge de la grand-mère. Parce que celles qu'elle inventait, elle les jouait. Celles qu'elle avait reçues en héritage, elle les racontait. Mais celles qu'elle inventait, elle les jouait en créant une scénographie d'une étoile à 9 branches qui représente les 9 portes de la cosmogonie Congo, allumait un grand feu de camp, se mettait au milieu avec sa canne, elle mangeait de la cola et du piment, elle broyait, elle crachait au feu, elle renversait du vin de palme. Quelque sorte, une espèce de théâtralité assez traditionnelle pour demander la permission aux ancêtres et tout.
De se lancer. Dans la nuit des récits.
Puis elle rentrait dans ce cercle barricadé de cette étoile à 9 branches, en tournant autour du feu avec une vitesse incroyable. Elle envoyait des salves de phrases, de mots, de tirades, de citations, de chants, de devinettes auxquelles on devrait répondre avec une force véhémente. Et ça avait pour objectif de nous réveiller, de nous secouer, de nous transmettre une certaine énergie. Là, c'était bien évidemment quelque chose qui était beaucoup plus théâtral, beaucoup plus performatif. L'aspect conte y était simplement parce que elle passe au passé simple ou à l'imparfait. Mais sinon, complètement, c'était quelque chose d'assez performatif qui était au présent complètement. Et la manière qu'elle avait de passer d'une pensée à une autre, qu'elle rendait complètement métaphorique, non seulement que c'était une gymnastique de la langue, mais c'était une prouesse en même temps poétique. À ce moment-là, je me rendais compte que, d'une partie à une autre de son long récit interminable, il n'y avait pas réellement une cohérence. On pourrait presque dire, sans insulter ma grand-mère, que ça pouvait paraître sans tête ni queue. Sauf que, rapidement, elle m'a expliqué qu'en ce moment-là, elle n'opérait pas une écriture linéaire. Elle était dans un kaléidoscope, elle faisait dialoguer des univers différents qu'elle avait appris, et à partir de ces univers-là, elle inventait un langage. En ce moment-là, j'étais déjà dans l'approche d'une écriture complètement hermétique et en même temps assez cassée, assez libre, assez déconstruite. Donc les premiers pas d'une écriture contemporaine et performative, au fait, c'est pas d'abord dans les livres que je l'apprends, c'est dans le mouvement, c'est dans le mouvement qu'opérait ma grand-mère. Et c'est à ce moment-là qu'elle me disait, face à n'importe quelle expérience que tu vivras, toi qui aimes écouter les histoires, parce qu'elle savait très bien que j'adore écouter les histoires, face à n'importe quel geste que tu feras en lisant, en écoutant mes histoires ou les histoires de quelqu'un d'autre, enlève la dimension d'avoir peur. Il faut se jeter simplement dans ce fleuve, qui est un fleuve des ténèbres, et en sortir avec du poisson, en sortir avec des légumes, en sortir avec des coquillages, c'est l'expérience que tu feras en plongeant dans les abîmes qui deviendra lumière. Donc une fois qu'elle m'ait dit cette chose-là, il me paraissait évident que quand mon père, bien évidemment, m'enfermait dans sa bibliothèque, il me paraissait complètement évident de faire abstraction de la violence que cela pouvait être.
Et de la peur qui pouvait aller avec.
Voilà. La question, c'était pas simplement de m'enfermer de la bibliothèque. Il y avait tout un certain nombre d'exercices qu'il fallait faire quand il me faisait rentrer dans la bibliothèque. Le premier jour, il m'a donné les derniers des Mohicans. Le deuxième jour, il me donne le premier tome des Misérables. J'avais 7 ans et demi. Il me dit, tu me lis tout ça. Quand je reviens, tu me fais le compte rendu. Tu analyses tout ce que tu n'as pas compris, tu les fouilles dans les dictionnaires qui sont à côté, tu m'expliques et après tu me raconteras comment tu aurais voulu raconter cette histoire si jamais tu en étais l'auteur. Et ça, il fallait le faire tous les jours par livre. Vérité pour vérité, je ne pouvais pas avoir, bien évidemment, une connaissance assez approfondie pour lui faire une analyse assez respectable de toutes ses œuvres. Je me servais de la technique de la grand-mère, qui me disait, ben, quand tu ne sais pas écrire, délire. Mais quand tu vas délirer, tu as droit à deux choses. Soit il faut que ça soit cohérent, soit en gardant une forme éclatée, il faudrait que tu donnes un morceau choisi à cette forme éclatée.
Il y a quelque chose dans ce que vous dites, Dieudonné Nyanguna, qui a évidemment à voir avec la transmission, avec l'héritage, avec les choses qui passent de génération à d'autres, et parfois en sautant une. Votre spectacle Opération Rumba s'intéresse beaucoup à la question de l'héritage, notamment à travers la musique. On va écouter un extrait d'une chanson de Papa Wemba. Elle s'appelle Mwanango Fatuma. Il était à l'époque dans le groupe de musique Viva la Musica.
Nazali sewa yo e Fatuma o gogo Bolingo tokutana se ogo yabato Zambe asala mokili be akeli bato yeme atia bolingo na se o ala Otolinga mama ho ye ye Fatuma Sango ya selie, loto kongago, lote longi ya papa. Fatuma, o banda kanga, Fatuma, o tuna kanga ye. Tuna sango ya selie, loto kongago, lote longi ya papa.
Il était temps, mais ce jour-là, je pleurais dans mon cœur, comme je pleuvais sur la pluie. Je t'aime.
Na belle souci à Bolingo.
Elle est à ta main.
Oh, ma belle, ça m'a monté, ma belle.
Et à Bolingo.
Na belle souci à Bolingo.
Elle est à ta main.
Oh, ma belle, ça m'a monté, ma belle.
Et à Bolingo.
France Culture, le Book Club, dans la bibliothèque de Dieudonné Nyanguna. Marie Richeux.
Il y a longtemps que je t'aime, jamais je ne t'oublierai.
On entre dans la deuxième partie de cette émission, Dieudonné Nyanguna. On vous a demandé, comme à chacun et chacune de nos invités, de choisir 5 textes. On appelle ça les livres étapes. Il paraît que lorsque vous avez reçu la consigne, la photographie immédiate des textes sont apparues. S'il y en a 5, ce seront ceux-là. Une évidence qui tient à quoi ? À la place qu'ils ont occupée dans votre vie ?
Oui, aussi. Ah, c'est pas facile parce qu'il y avait 2-3 bonhommes qui manquaient, que je ne pouvais pas citer dans la liste pour la simple raison que quand les amis passent à la maison, alors ils récupèrent tous les autres là, hein, et quand ils te piquent des trucs, c'est pas forcément évident qu'ils te les rendent après. Donc, c'est clair que quand il est retour au pays natal, je l'ai plus parce que chaque fois que je le remets là, bah, soit c'est ma fille qui la récupère, soit c'est un cousin, soit c'est un ami, qui dit je te le rends. Donc, du coup, il y en a qui sont excusés, qui ne sont pas parmi les 5.
Par exemple, Aimé Césaire et le retour.
Par exemple, quand il y a un retour au pays natal de Aimé Césaire, bien évidemment. Par exemple, dans la solitude de Chante Coton. Mais de toute évidence, ces 5 m'ont paru aussi évidents que les 2 ou 3 qui manquent là à la table.
Mais qui sont là
qui
parce
sont
qu'ils sont
là
cités.
Parce voilà. Que, de toute évidence, ils existent dans ma bouche, ils existent dans mon corps, ils existent dans mon geste d'écriture ou dans mon geste d'acteur.
Et alors moi, je suis assez curieuse parce qu'il y a un auteur dont je n'ai absolument jamais entendu parler. parlé, mais voilà, c'est le cas très souvent. Ça m'arrive très souvent dans cette émission de découvrir des autrices et des auteurs. C'est Tom Cromer.
Ah oui.
Le livre s'appelle Les Vagabonds de la faim. Il paraît au milieu des années 30. Il me semble que c'est le seul livre de cet auteur américain qui est né en 1906 et mort en 1969. Il a aussi été critique littéraire, novelliste. Est-ce que vous voulez bien nous lire un extrait ? Et puis vous nous direz peut-être après pourquoi
oui,
vous l'avez choisi.
D'accord.
Les Vagabonds de la faim, c'est donc dans une traduction depuis l'anglais de Raoul de Roussy de Salès.
Couché dans l'obscurité, je médite. Il fait trop froid pour dormir. Sur le fourgon à bagages, je ne pouvais pas tenir mes yeux ouverts. Maintenant, je ne peux pas les fermer. J'écoute les rats qui trottinent sur le sol. J'écarte le sac de mon visage. Et j'écarquille les yeux pour essayer de percer l'obscurité. Les rats me font peur. Un jour, en me réveillant sous les ponts, il y en avait deux sur ma figure. Depuis lors, je rêve des rats, gros comme des chats, qui vont assis sur ma figure et me rongent le nez et les yeux. Je n'arrive pas à les voir, il fait trop noir. Je ne peux pas rester couché comme ça, à attendre avec mon cœur qui cogne contre mes côtes. Je ne peux pas rester couché ainsi et les écouter galoper autour de moi sans pouvoir les voir. Je m'extirpe de mon tas de pécans et je me lève. Sur la pointe des pieds, je rejoins la route. Je ne veux pas réveiller ce vieux loufoque qui m'a creusé mon trou. Je ne veux pas lui faire d'offense et du reste, il serait capable de piquer une crise. Je marche, je baisse la tête pour empêcher que le vent qui siffle ne me coupe la figure comme un couteau. J'écoute craquer les arbres secoués par le vent. Je marche sur le côté gauche de la route. Je ne pourrais pas entendre les autos qui viendraient derrière moi. À cause du vent, on n'entend rien. De temps à autre, je tourne la tête pour voir s'il n'y a pas des phares qui s'amènent. Quand j'en aperçois, je m'arrête. Et je tends le bras pour qu'on me ramasse. Ils ne s'arrêtent pas quand ils voient mon signe. Ils appuient sur l'accélérateur et vont plus vite. Ça ne leur dit rien de ramasser un stiff à bout de force qui a des ampoules aux pieds.
On peut lire que ce texte que vous venez de lire, Les Vagabonds de la faim, est un texte très largement autobiographique où en réalité Tom Cromer raconte sa propre histoire. Quand est-ce que vous avez découvert ce texte, Dieudonné Nyanguna ? Pourquoi vous l'avez choisi quand on vous demande voilà, cinq textes ou plusieurs textes étapes de votre vie ?
Je l'ai découvert très tard, c'était en 2004.
Au moment de sa sortie dans la traduction française.
Exactement, je me trouvais en ce moment-là déjà en France puisque j'arrive en France en 2001. Je l'ai découvert en 2004. Parmi tous mes auteurs préférés, c'est celui que j'ai découvert tardivement. Et c'était un choc très évident, très fort. Je ne savais pas qu'il y avait un auteur qui s'appelait Tom Cromer. Je ne savais pas qu'il y a un livre qui venait de sortir de cet auteur non plus. Ça, c'est parmi les gens qu'on découvre au hasard en rentrant dans une bibliothèque où on se dit « Aujourd'hui, je ne vais pas pour chercher un auteur. Aujourd'hui, un livre va me surprendre. Je vais faire la rencontre d'un auteur que je ne connais pas. » Et ça, c'est un rituel que j'adore faire. Je le fais au moins deux ou trois fois le mois. Bon, le reste du temps, je vais pour chercher un ami qui va me sortir un livre ou un auteur que j'ai l'habitude de suivre et tout, parce que j'ai entendu à la radio ou à la télé, il y a un auteur et tout, ou un ami m'en a parlé. Mais il m'arrive des fois, c'est quelque chose que j'ai mis comme ça en place, un petit rituel, où je me dis aujourd'hui, entre telle heure et telle autre heure, je vais spécialement chercher un auteur que je ne connais pas, dont je n'ai jamais entendu parler, donc que le hasard me surprenne. C'est toute la beauté de la chose. Et lui, c'était pareil, j'étais rentré dans une librairie comme ça, vers République, une petite librairie. Souvent, quand c'est comme ça, je me donne au moins 4 à 5 heures.
Ah ouais, sympa.
Ah oui, il faut que je réserve une matinée ou un après-midi.
Oh,
je coupe le téléphone, j'ai rien d'autre ce jour-là que de me perdre comme un gamin qu'on aura jeté dans une caverne d'Ali Baba. Exactement.
Mais qu'est-ce qui vous arrête
sans
alors ?
Pression.
Et qu'est-ce qui vous arrête dans le texte
de Tom
Cromer ?
Ce temps que je me donne, je me dis j'ai 4 heures pour ça. Et donc, top chrono, à 4 heures, voilà, l'horloge
mais
sonne.
Comment vous arrivez au Vagabond de la faim? Pourquoi est-ce que c'est ce livre-là et pas un autre que vous
je
emportez
crois que
ce
le
jour-là?
Le titre m'avait happé, donc je circule sur beaucoup de livres, parce que quand c'est comme ça, j'en prends un, je m'assois, je lis, et je lis de façon aléatoire. Je peux commencer au milieu, je lis une page, je saute, je tombe vers la fin. Bon, il y a les titres en ce moment-là qui me séduit, il y a là, toujours la même chose, toujours et toujours la même chose, la qualité de la langue. La qualité de la langue, pour moi, elle est primordiale. On passe d'abord par dire... Je m'appelle Dieudonné Nyangunda, je m'appelle Françoise Intel, je m'appelle Moussa Intel, et pour moi, c'est je m'appelle, c'est comment on écrit. Ouais. C'est la langue. Ouais. C'est la langue qui dit je m'appelle. Parce que c'est par la langue de l'auteur que je sens, évidemment, si c'est safran, si c'est paprika, si c'est aigre d'eau, si c'est piment. Voilà. C'est par là que je connais, que j'arrive à savoir. C'est tel parfum, c'est tel épice.
Et aussi s'il y a quelqu'un derrière.
Et s'il y a quelqu'un derrière, justement, parce que ce quelqu'un se nomme par son épice, par son parfum, pour savoir quel type de
fleur. Et alors, c'est quoi l'épice de Tom Cromer? Qu'est-ce qui vous a tant marqué dans ce texte, Les Vagabonds?
Alors lui, je sentais qu'il parlait du ventre. Or moi, les auteurs qui parlent depuis le ventre, c'est-à-dire il est à l'intérieur de ses boyaux, et ce qu'on entend, c'est l'odeur de ses boyaux. Il parle à l'intérieur de son écriture. Les phrases sont très très fortes, paraissent simples, lisibles, mais il est à l'intérieur du boyau. C'est une andouillette, fermée des deux côtés, avant et après, et au milieu,
couverture,
on a la
saucisse. Quatrième de couverture.
Exactement. Dès que j'ai jeté mes yeux sur ces lettres, il y avait une espèce de ce que j'appelle moi de tremblement de feuilles. Ouais, c'était les écrits sur la feuille tremblaient, une espèce de tectonique de son, comme ça. Ça bouillonnait, ça sentait une certaine vie, quelque chose qui se cherchait, quelque chose qui bataillait. Une écriture qui bataille, c'est comme une espèce de moimé d'aller de l'écriture. Il envoie des hypercutes, et il en reçoit, et il tombe, et il se remet debout. Et cette force, je vais terminer avec Tom Cromer, ça avait aussi quelque chose qui, somme toute, était très très proche d'une période assez difficile et sombre de ma vie, qui part chez moi entre 12 et 16-17 ans, où j'étais complètement très sombre et très noir. Bah, c'était la période où je rentrais dans Aimé Césaire, les yeux fermés, complètement fermés. Mais évidemment, on peut simplement dire que c'est la période où arrive l'adolescence, avec une force assez violente. Mais en même temps, c'était une période où ce qui se passait au Congo n'était pas rigolo.
C'est un euphémisme.
Ouais. C'était la fin d'un régime qui tendait avant qu'on sache que la démocratie va arriver. Bah, une période assez sombre, assez très difficile. Il y avait un échec de tout, à tous les plans. Et dans la famille, ça n'allait pas fort. C'était très, très compliqué. Et donc, toutes les questions existentielles que je me posais, qui devaient être des questions personnelles, devenaient en même temps des questions qui étaient à l'image évidemment de ce qui n'allait pas, que ça soit dans la nappe politique du pays, dans la structure sociale, dans la structure familiale. Ça s'est joint à cet endroit-là. Et j'écrivais beaucoup pendant cette période-là, et j'écrivais sur ma chemise, sur mon pantalon, sur mes chaussures, sur ma peau. Parce que quand je commençais à écrire, il fallait arrêter pour aller à l'école, il fallait arrêter parce qu'on me demandait d'aller faire des courses, tout et tout, dès que ça venait. Et ça venait. Et le « ça c'est quoi ?» Ah bah le ça, c'est ce petit ange qui vous glisse des mots à l'oreille. Sauf qu'en ce moment-là, il me glissait des mots avec une telle violence que je ne pouvais pas me dire « Attends 2 secondes que je fasse d'abord la commission de maman ». Impossible. J'étais en transe. Et donc du coup, je ne me retrouvais pas avec une feuille ni avec un stylo parce que je devais partir au marché, aller acheter des tomates pour maman. Alors je ramassais un morceau de craie qui tombe au sol ou souvent c'était du charbon comme ça au bord de la route et j'y allais. J'y allais. C'était très, très dur. Alors, du coup, la famille m'avait... maman qui était très, très chrétienne et très, très catho. Alors là, elle m'envoyait chaque fois dans des cérémonies d'exorcisme chez tel prêtre. Je disais, non, je ne suis pas fou, mais qui pouvait le croire en famille? Donc, on me faisait passer chez tel féticheur, tel guérisseur, tel prêtre spécialiste d'exorcisme, parce qu'on disait que je suis hanté, que je suis complètement voûté par une espèce de démon. Mon père, énervé par la situation qui arrivait, me fait sortir de la bibliothèque et me dit « Écrire comme lire te rend fou, il faudrait plus que tu touches à un seul livre. » Il a dit pour l'empêcher de devenir fou. Mais moi, je savais très bien que je n'étais pas en train de devenir fou. Ça n'avait rien à voir. C'était que, voilà, tous mes anges gardiens réunis de l'écriture étaient en train de me dire « C'est maintenant. » Et quand il disait « maintenant », comme Shakespeare sait très bien dire « maintenant » pour commencer évidemment une pièce de théâtre, c'était un match qu'on ne pouvait pas arrêter une fois que l'arbitre avait sifflé le début des hostilités. Fallait que ça fight. Et cette période n'avait pas été facile, et c'est pendant cette même période que je rentre au théâtre. Je dis que je rentre au théâtre. Je suis rentré au théâtre comme on rentre à l'armée, comme on rentre en religion, de pied en cap, on rentre. On rentre. Tout le corps et tout l'esprit rentrent dedans. On ne laisse rien à la porte. On rentre. Tout rentre. Et j'arrive au théâtre. Alors là, c'était encore toute la folie de Dieu de Denis Onguna était mise à côté, mise à la porte, critique. C'était pas facile, mais pas facile dans le sens de me faire accepter. Non, ça, j'avais pas de problème avec ça, moi. C'était la plongée dont la grand-mère m'avait parlé au début. Et là, j'étais réellement en train de la faire. Au début, je la faisais en lisant. Et là, en ce moment-là, j'étais en train de la vivre comme un rituel. C'est vraiment ce qu'on appelle un livre d'initiation. J'étais en train de la vivre comme un rituel. Et quand je suis tombé sur Les Vagabonds de la fin, de Tom Cromer, et que je vois ce personnage-là, ce stiff, qui traverse cette longue nuit noire. Ouf, c'était la métaphore, non seulement de quelque chose que j'avais vécu, mais la métaphore en même temps de se dire, voilà comment on achemine à travers les méandres des abîmes, juste pour chercher la lumière. Et cette lumière, si ça se trouve, c'est même pas pour moi, c'est pour des nanas et des mecs qui s'appellent des lectrices et des lecteurs.
Vous parlez d'entrer ou même de rentrer au théâtre. Le deuxième texte que vous avez choisi, Dieudonné Nyanguna, c'est un texte de Heiner Müller. Vous avez choisi « Paysage sous surveillance ». Est-ce que vous voulez bien nous lire un extrait ? La traduction est signée Jean Jourdeuil.
L'autre dans le retour du même, le bégaiement dans le texte sans parole, le trou dans l'éternité, l'erreur peut être salvatrice. Regard distrait de l'assassin quand il éprouve de ses mains, de la lame du couteau, le cou de la victime sur la chaise, sur l'oiseau dans l'arbre, dans le vide du paysage. Hésitation avant de trancher, les yeux fermés avant le jet de sang, rire de la femme qui, le temps d'un regard, relâche l'étranglement, fait trembler la main qui tient le couteau, vole en piqué de l'oiseau attiré par le scintillement de la lame. Atterrissage sur le crâne de l'homme, deux coups de bec à droite et à gauche, vertige et hurlement de l'aveugle, giclé de sang dans le tourbillon de l'ouragan qui cherche la femme. Peur que l'erreur survienne pendant le clignement des yeux. La fonte de visée sur le temps s'ouvre entre regard et regard. L'espoir demeure sur le fil de la lame d'un couteau, tournant de plus en plus vite sur lui-même, avec une attention croissante, lassitude, inquiétude, soudaine dans la certitude de l'effroyable. Le meurtre est un échange de sexe, étranger à son propre corps. Le couteau est la blessure, la nuque le couperet. La perte de contrôle fait-elle partie du plan ? À quel appareil est-elle fixée la lentille qui aspire les couleurs du regard ? Dans quelle orbite se trouve-t-elle la rétine ? Qui ou quoi s'inquiète de l'image ? Demeuré dans le miroir, l'homme au pas de la danse, est-ce moi ? Ma tombe, son visage ? Moi, la femme, avec la blessure au cou, dans les mains, à droite et à gauche, l'oiseau déchiré en deux, le sang à la bouche, moi, l'oiseau. Qui, de l'écriture de son bec, montre à l'assassin le chemin dans la nuit. Moi, l'ouragan gelé.
Heiner Müller qui a écrit plus de 30 pièces qui ont été montées en Allemagne de l'Est, en Allemagne de l'Ouest, à l'étranger, notamment en France, où il était régulièrement joué depuis les années 70. Le texte que vous venez de lire, Dieudonné Nyanguna, date de ce début des années 70. Pourquoi est-ce que vous avez choisi « Paysage sous surveillance » d'Heiner Müller ?
C'est l'un de mes textes préférés. D'abord, j'aime tous les textes de Heiner Müller. Je les ai beaucoup travaillés pendant ma période où je suis rentré, à mes débuts de rentrer dans le théâtre. Et puis, il m'a accompagné, il continue à m'accompagner jusqu'à maintenant. C'est l'un des premiers auteurs que je traîne avec moi dans mon barda. À chaque fois que je vais donner un atelier d'écriture, un atelier de mise en scène, un atelier de jeu, que ça soit en France, dans d'autres pays d'Europe, en Afrique même, dans beaucoup de festivals et des lieux. Parce que pour moi, il est à la frontière de deux choses qui m'ont constitué. Il est ce que faisait ma grand-mère, j'en ai parlé tout à l'heure, où il y avait un héritage d'une tradition de conte épique que ma grand-mère avait, et puis il y avait un côté que ma grand-mère avait, celle d'éclater la forme. En partant bien évidemment de ce qui existait comme patrimoine, elle arrivait à créer une espèce de patchwork avec un langage qui devait tout à sa grande bibliothèque. Et ça, c'est quelque chose que je trouve de manière très très évidente chez Heiner Müller quand il fait Médée Matériaux. Ce n'est pas une traduction de Médée qu'il fait. Il n'écrit pas une autre Médée. Il parle de la figure de Médée. Bien évidemment, aujourd'hui, on peut dire que c'est beaucoup plus courant de réécrire quelque chose en partant de sa poétique. Mais ce qui est impressionnant avec Heiner Müller, c'est que lui, il en fait une expérience. L'expérimentation est très très forte parce que dans son Médée Matériaux, qui tient sur 4-6 pages, je te demande comment on peut raconter Médée en 4-6 pages. Eh bien, ça tient selon Heiner Müller. Parce qu'au fait, c'est pas toute l'histoire de Médée qu'il te raconte. Il te raconte un crime qui n'est pas le crime de Médée, qui est le crime de l'auteur, qu'il fait sur l'histoire de Médée. Et c'est là où il est sur complètement présent. Mmh. Sur le texte. Et c'est là où, évidemment, ce geste a quelque chose de très très fort avec ce côté iconoclaste qui devenait la une forme de naissance d'une autre écriture, mais en se basant sur la grande bibliothèque universelle des histoires, la grande universelle des littératures. Il y a cette chose-là, donc, qui pour moi est la porte, une autre porte, c'est-à-dire sur les différents mécanismes d'écriture dans leur relation avec des patrimoines de littérature. Lui, il apporte quelque chose d'autre, il apporte un nouveau geste. Et ça me libère d'un. Ça me permet de respecter les classiques, mais ça me permet en même temps de m'affranchir du respect que j'ai pour les classiques. Mais c'est les deux choses en même temps. Le respect pour les classiques et la liberté que ces classiques doivent me donner de m'affranchir d'eux. Pas de les rejeter, pas de les critiquer, mais de m'affranchir du respect religieux que j'ai pour eux. Et ça, c'est ce que je trouve chez Heiner Müller. Autant qu'il les célèbre, qu'il les vénère, autant son approche envers ces classiques-là le libère.
Vous faites le lien, Dieudonné Nyanguna, entre la recomposition qu'Heiner Müller fait à partir de textes, grands textes classiques du théâtre et la façon dont votre grand-mère, pareil, prenait liberté de forme et de recomposition à partir d'elle-même, un héritage de récits et de contes qu'elle faisait dans ses nuits de votre enfance. Quand est-ce que vous avez fait ce rapprochement-là? Quand est-ce que vous avez compris que ce que vous lisiez chez Müller...
Chez Müller, c'était à 14 ans. C'était à 14 ans.
Mais vous avez compris que c'était la même chose que ce que vous viviez dans la nuit chez votre grand-mère?
Aussi simple que ça, pas parce que j'étais intelligent, non, j'étais pas si intelligent que ça, mais parce qu'au fait, la première école que j'ai faite, je l'ai faite auprès de la grand-mère. Ouais. C'est ce que j'appelle mon conservatoire. C'est-à-dire, tout le temps que je partais en vacances, je n'écoutais pas que les histoires avec la grand-mère. Donc, après les nuits de conte, la journée, quand je restais avec elle, ou pour partir au champ, elle m'expliquait un certain nombre de choses avant que les vacances ne finissent, que je revienne à Brazzaville. Donc, autant qu'elle m'expliquait les plantes, ce qui va me sauver quand je serai emprisonné en forêt pendant la guerre de 98 au Congo, ce qui va me sauver, c'est le théâtre parce qu'on me libère par quelqu'un qui tuait des gens, parce que j'étais son comédien préféré alors que je ne le connaissais pas, et le fait que tous les gens qui tombaient malades dans le campement où j'étais, je les guérissais avec les plantes. Mais ça, je l'ai appris en partant en vacances chez la grand-mère quand elle me disait telle racine de telle feuille, avec ça, ça soigne la colique.
Donc, elle vous a doublement sauvé.
Donc, c'était une école que je faisais et qui commence très très jeune. La grand-mère avait ses raisons sans doute de le faire, parce que bien évidemment c'est quelque chose qui ne se lègue que de la grand-mère à la première petite fille, mais moi j'étais pas évidemment une fille et j'étais pas non plus le premier du ventre de mon père ni de ma mère, simplement parce que ma sœur aînée refusait de prendre cet héritage.
Du coup vous, la place a été libérée pour que vous puissiez prendre cette place-là.
Mais non, je n'avais pas le droit. Parce que je ne suis pas une femme et que je ne suis pas le premier.
Mais vous l'avez fait quand même, manifestement.
Non,
vous avez
mais
été
ça,
à
c'est
cette
parce
école-là.
Que la grand-mère est morte, que je peux me permettre de le dire, c'est en catimini. Parce que la grand-mère savait très bien que je m'intéresse aux histoires. La grand-mère savait très bien que c'est ça que je ferais. Elle le savait très très bien. Et elle savait très bien qu'elle n'avait pas le droit de m'en donner les clés ni de m'initier. Mais en même temps, elle avait le souci que cette chose se perde. Cette chose qui est dans sa famille, qui se transmet de génération en génération. Alors, quelle est la meilleure façon ou la meilleure méthode pour faire de telle manière qu'un héritage continue quand on se retrouve devant un fait qui le donne, qui le signe pour mort? C'est de faire un geste de transgression. Mais les gestes de transgression, faut pas toujours les crier sur les toits, sinon ça marcherait pas. Donc, la meilleure façon même de transgresser, c'est de ne jamais dire qu'on est en train de transgresser. Donc, la grand-mère ne pouvait pas dire que je t'initie à ça, elle ne pouvait pas non plus le montrer aux gens, c'est subtilement, parce qu'elle sait très bien de toute évidence, même quand je saurais ce que je devrais faire, je n'ai pas le droit de le faire à cette place-là. Faut que j'aille le faire en France, faut que j'aille le faire à Bruxelles, faut que j'aille le faire partout dans le monde, et non dans son village, parce que là, j'aurais pas le droit. Mais au moins que j'aille le faire pour que cette chose ne meure pas. Donc, bien évidemment, que pour continuer une forme d'héritage, il faut savoir la transgresser, mais la transgresser ne veut pas dire la jeter à la poubelle. Et toute l'intelligence, bien évidemment, elle est à cet endroit-là. Comment on dit non en disant oui, comment on dit oui en disant non, mais avec toute l'intelligence qui permet que c'est la dynamique qu'il faut garder, la dynamique de quelque chose qu'il faut garder. C'est toute la dynamique de la chose qui a l'intérêt qu'il faut garder. Quand je rencontre un homme alors, je savais très bien quelle écriture elle est en train, quelle écriture ce bonhomme, ce monsieur, ce grand monsieur est en train d'appliquer. C'était très évident, puisque c'est une vie qui se partage entre la bibliothèque de papa et la bibliothèque de la grand-mère. Ces deux bibliothèques. Pour moi, elles s'accompagnaient, c'est-à-dire le geste qui est opéré par la lecture et la compréhension que je me faisais de ce que je lisais dans la bibliothèque paternelle et les discussions que j'avais après lui, donc suite aux exercices avec la chicotte, comme l'épée de Damoclès sur ma tête, s'accompagnait ou s'accomplissait en même temps avec les rencontres que j'opérais avec l'univers de la grand-mère au village sur quelque chose. Si on le regarde avec des yeux assez naïfs, on pourrait dire « bon, on est dans quelque chose d'assez exotique, dans quelque chose d'assez tribal ». Non, non du tout, parce que c'est ce que tout le monde regardait. Mais moi, la chose que j'ai, c'est que dès le début, très gamin, il m'a dit « ne regarde jamais avec les yeux ». Elle m'a dit, ne regarde jamais avec les yeux, regarde toujours avec l'esprit. Il me dit, n'achète jamais une pétade par rapport à la beauté de ses plumes. Tu feras une erreur, ne regarde jamais avec les yeux.
Bon, moi, je dois regarder absolument le chrono avec les yeux du Dieu des Nanguna, absolument. Nous avons prononcé son nom plusieurs fois depuis le début de cette émission. Nous allons entendre la voix de Sony Laboutancy dans une archive ici tirée de ses entretiens à voix nue.
Ce qui m'importe de moi, c'est d'écrire. Autrement que ceux qui ont déjà écrit, par exemple, parce qu'il faut que chacun ajoute quelque chose. Justement, c'est ça le problème. Le monde est là, l'humanité est là, mais chacun y vient pour essayer d'élargir. Autrement, ça sera étroit, à mon sens. Actuellement, ce siècle a besoin de prophètes. Et ça s'impose. Il faut, le rêve a perdu sa place. Et il faut des gens qui rêvent, qui fassent rêver, je crois. Et ça, c'est très important. Beaucoup de gens actuellement croient que la vie n'a pas de sens. Et ça, je suis persuadé que la vie est belle, elle est là, elle est ample, elle est vaste, et on peut y mettre pas mal de choses. Je crois que l'écriture vient de la vision qu'on a du monde, n'est-ce pas ? Pour moi, je dis souvent que mon écriture vient du ventre. C'est comme ça que j'explique ça. Quand j'écris, je pense à la situation au monde où nous sommes actuellement. Le monde où nous sommes n'est plus le monde où les autres étaient avant. Ça ne devait plus être le même monde, mais notre monde à nous. Il y a un danger qui nous guette en quelque sorte. Est-ce que nous serons capables de transmettre cette belle vie? Parce que pour moi, même si les gens disent que la vie n'est pas belle, mais à quelque chose, la vie est belle. Donc, est-ce que nous arriverons justement à transmettre cette vie aux générations futures? C'est la grande question qui se pose à moi. Et c'est à partir de cette question que mon écriture est déclenchée, je crois. Elle ne peut être que surprenante.
On avait changé le lit excellentiel 16 fois en l'espace d'un mois, temps pendant lequel le guide providentiel n'avait pas fermé l'œil une seule nuit. Le haut du corps de Martial venait toujours à côté de lui, noircissant les draps qu'on devait maintenant brûler et changer tous les jours. Il demanda qu'on lui affectât les 40 plus courageux et plus charnus gorilles de l'armée. C'était pour la plupart des hommes grands comme deux, forts comme quatre et velus comme des ours. Le guide dormait entre quatre d'entre eux, collés à sa peau, tandis que le reste du contingent s'ajoutait à une cinquantaine de soldats ordinaires qui remplissaient les veillées de son excellence du bruit ferré de leurs sinistres souliers. Et quand les reins du guide avaient posé leurs problèmes, on remplaçait les peaux collants directs par des êtres du sexe d'en face. Les gardes assistaient alors aux vertigineuses élucubrations charnelles du guide providentiel, exécutant sans cesse leur éternel va-et-vient en fond sonore au clapotement fougueux des chairs dilatées. Le haut du corps de Martial venait toujours couper les appétits et le sommeil du guide providentiel jusqu'à ce jour où Casar Pueblo, le cartomancien préféré du guide providentiel, établi cette chose. Son Excellence doit partager son lit avec la fille de Martial pour chasser l'image du revenant. Mais Son Excellence doit absolument éviter de faire la chose là avec la fille de Martial.
La vie et demie, c'est le roman dont vous venez de lire un extrait, Dieudonné Nyanguna, écrit par Sonny Laboutancy. Il se passe dans un pays imaginaire qui s'appelle la Katamalanazi. Sonny Laboutancy, qui naît en 1947 et qui meurt en 1995. Et ce livre, publié en 1979, a connu un grand succès. Vous l'avez choisi parce que c'est ce livre-là ou parce que ça aurait pu être n'importe quel livre de Sonny Laboutancy ?
Je l'ai choisi parce que c'est ce livre-là. Oui, ma première gifle que j'ai reçue de Sonny Laboutancy, c'est avec La vie et Demi. Puis après, il y a Machel à Ernie. Il y a toutes les œuvres de Sonny que je porte, avec grâce d'ailleurs, qui sont présentes dans ma façon d'écrire, qui sont présentes dans mon jeu, dans mes mises en scène, dans mes réflexions. Mais évidemment, la figure de proue pour moi, pour entrer dans Sonny, c'est La vie et demie. Même quand on me demande, tiens, je connais pas Sonny, qu'est-ce que tu me conseilles en premier? Je dis, je te conseille La vie et demie parce que c'est le moins facile. Faut accepter le moins facile chez Sonny pour le connaître. Oui, parce qu'il dit très bien dans sa préface que La vie et demie s'appelle écrire par étourderie. Moi qui vous parle de l'absurdité, de l'absurde, d'où voulez-vous que je vous parle sinon du dedans de moi-même? Et Sonny parle du dedans, un peu comme Tom Cromer. C'est des gens qui sont à l'intérieur de leur andouillette et c'est ça qu'on entend. Ça n'a pas de début, ça n'a pas de fin, parce que toute chose a une fin, sauf la saucisse qui en a deux. Et ce milieu est autant une forme d'éternité. C'est-à-dire, s'il n'est pas fatigué, il n'aura pas de point final. On est aussi proche de quelque chose d'assez spiral, quelque chose où la parole tourne dans son gigotement, mais sans se répéter. Voilà, c'est l'infinité des possibilités qu'il y a à l'intérieur, en décrivant des lignes différentes, à l'intérieur évidemment du même mouvement cyclonique. Et il y a donc cette force-là intarissable chez Sonny, où on sent que c'est quelqu'un qui écrit pour défier le fleuve Congo, qui est quand même la plus grande entité du Congo, de toutes les personnalités mystiques, spirituelles, religieuses, traditionnelles, entités, tout et tout, art. Le plus grand, c'est le fleuve, et c'est lui qui nous a donné son nom. Et voilà pourquoi c'est l'un des seuls fleuves au monde qui n'a pas de nom. Pourquoi ? Parce que dans nos cultures traditionnelles depuis très longtemps, il était évident qu'on ne peut pas lui donner un nom parce qu'il est au-dessus. C'est un peu comme dans certaines religions où on refuse de nommer Dieu pour ne pas le mettre sur le même piédestal que les humains. Donc, à cet endroit-là, dans nos cosmogonies à Congo, bien évidemment, le fleuve, c'est le fleuve. Comme s'il était l'évidence de ce que c'est qu'un fleuve.
Est-ce que vous vous souvenez la première fois, quel âge vous avez lorsque vous découvrez le texte La vie et demie de Sonny Laboutancy ?
12 ans. La première chose que je lis de Sonny, c'est une pièce de théâtre qui s'intitule La parenthèse de sang. Merveilleuse pièce de théâtre, je crois qu'on n'en écrirait plus comme ça. Hein. Et d'une force de dérision. Certains pourraient l'appeler tragicomédie, mais ce n'est pas une tragicomédie. Ça reste une tragédie où on rit, mais on rit à tomber par terre sans que ça soit une comédie. Mais ce n'est pas une tragicomédie. La tragicomédie, c'est une autre chose.
Et à vous, à 12 ans, vous, ça vous atteint. Vous êtes émis.
Bien
par
évidemment,
ça.
Bien évidemment. Et la même année, je tombe sur L'État honteux, et puis je tombe sur La vie et demie. Ça, c'est les premiers Sonny que j'ai lus. Et La vie et demie, la gifle de La vie et demie, c'est là que j'ai compris quand Sonny écrivait, il contactait. D'abord une relation avec le Big Bang. Il contactait d'abord une relation avec les Big Bang pour qu'il arrive à coucher une œuvre. Et ça, c'est une signature qu'il mettait à l'entrée de toutes ses œuvres. Les clés sont sur la porte. Hein, ça, dans La vie d'Emile, par exemple, dès le début, Sonny te dit « Tout avait commencé quand Shaidana avait eu 15 ans ». C'est la première phrase. Il ne dit pas que l'histoire avait commencé, il dit tout. Mais le tout dont il parle, ce n'est pas son histoire, c'est tout. Tout ce qui existe au monde a commencé quand Shaidana avait 15 ans. Quand il écrit la parenthèse de sang dont je parlais là, la première tirade, la première phrase de la parenthèse de sang, c'est « Ça commence ». Ça commence. Il commence l'histoire du monde selon lui. Il donne une autre version. Et il ne commence pas par son histoire. Il commence comme s'il faisait tabula rasa de tout ce qui a existé.
Du présent, pur présent.
Ouais, carrément. Et il commence à donner sa version des faits, comme s'il était là au début. Il applique toujours le même syndrome, que ce soit dans « Antoine m'a venu son destin », il commence la pièce comme ça, en disant « Sommes-nous sortis du monde ?» Que ce soit dans « Machel à Ernie », il commence en disant « Ceci est la véritable histoire ». Ça, c'est vraiment la signature de Sony. Et la manière dont il va décrire en passant la première phrase pour tomber à la deuxième, de la deuxième à la troisième, bah, il fait, je crois qu'il était amoureux de la genèse, de toute forme de genèse. Il ramène d'abord le chaos, le Big Bang. Après, à partir des débris de ce monde éclaté, il prendra
quelque
chose sera constitué à partir de là pour tracer une mosaïque qui deviendra l'histoire, et on verra très bien que l'histoire qu'il va nous raconter, au fait, on va la contacter presque au milieu du roman. Mais pour la trouver, pour la voir, il faut qu'on reparte d'abord à la genèse, à la maman du Big Bang qu'il va d'abord contacter. Et ça, c'est quelque chose aussi qu'on peut retrouver dans des espèces de mille et une nuits, dans des romans interminables, dans des histoires de grand-mère, mais qu'il rend complètement contemporain. Et c'est une chose qui est très très forte de savoir que la relation, une fois de plus, entre la transmission et évidemment l'éclosion des formes et la recréation, on voit très bien qu'au fait qu'il y a un héritage de tout ce qu'il a lu, mais il y a aussi un héritage d'une tradition, d'une culture, mais en fait c'est toujours l'histoire des affranchissements au fait. Et à partir de ces affranchissements-là, il crée son inaboutance.
Il y a deux livres à votre droite, Dieudonné Nyanguna.
Oui.
Le devoir de violence et un livre de Luis Sepúlveda qui s'appelle Le monde du bout du monde. Mais je sais d'ores et déjà qu'il n'y aura de la place que pour un. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? On va plutôt vers Sepúlveda ou on va plutôt vers Wologame?
Je vous laisse choisir parce que...
Moi, je vais vers Wologame.
Alors, on y va?
Donc, on vous écoute dans la lecture Le devoir de violence, qui est un livre de Yambo Wologame, un livre paru en 1968.
Arrivé dans la cour de son palais en toute pompe, il voulut descendre de son cheval pour saluer les épouses qui étaient aussi des belles-mères, lorsque tel soit le sort de qui te maudit, culbuté par un brusque écart de la noble bête, il déchira la culotte courte de sa tunique bleue, étalant ses parties basses au public comme à sa naissance Adam. Atterré et fanatique, le peuple témoigna avec éloquence de sa vocation imbécile, voyant là un présage du ciel. Plus d'un témoin affirma qu'une sangle de cheval avait été volontairement limée afin de provoquer ce scandale. On leur tira l'oreille, on leur rasa le crâne, on leur tatoua une croix sous les pieds pour que chacun de leurs pas fût une offense à Dieu, puis on menaça de les maudire eux, leurs pères, leurs mères, leurs ancêtres, leurs descendants, et des courtisans dénoncés durent rendre compte de leur fausseté à Dieu qui les appelait par la bouche de son sorcier, banni et exilé à Digal. Là, on brisa leurs membres à coups de sabots de cheval, d'une dague touareg, bénis et retournés sept fois dans leurs yeux, leurs oreilles, leurs testicules, puis lentement dans leurs nombrils, on les vida de leur sang frondeur avant l'incinération finale qui les rappela au très doux maître des mondes.
C'est un texte qui est paru en 1968. Cet homme de lettres qui est né en 1940 est mort en 2017. Comment est-ce que vous découvrez Yambo Wologame ?
Yambo Wologame, je le découvre grâce à un livre qui était dans la bibliothèque de mon père, qui parlait du procès qui était fait à Yambo Wologame. Parce que pendant cette période-là, il était censuré, donc la circulation de ses livres n'était pas évidente. C'était un essai, j'ai oublié le titre, qui parlait du procès, en bien ou en faux, tout ce qu'on veut, toutes les façons. Sur Yambo Wologame, il y a à boire et à manger, on pourrait tout dire. Et j'ai eu cette curiosité. Alors, mon père n'avait pas dans sa bibliothèque, et ça, je m'y attendais. Et j'ai cherché auprès des aînés qui étaient là à Brazzaville, des aînés de lettres, des aînés de théâtre. tout et tout. Et il y avait quelqu'un qui, d'ailleurs, était dans la compagnie théâtrale de celui-là, Boutancy, qui s'appelle Nicolas Bissi, un des doyens du théâtre Congo. Lui, il avait un exemplaire. C'est lui, le premier qui m'a prêté Le Devoir de violence. Alors, bon, déjà que dans cet essai, on en avait parlé comme étant quelque chose qui avait fait parler de lui. Alors, la curiosité que j'avais, c'était de savoir pourquoi cette histoire était arrivée à ce bonhomme-là. C'est ce que je voulais trouver en le lisant. Mais sauf que c'est pas ça que j'ai trouvé. Ce que j'ai trouvé, c'était un maître à penser. C'est à partir de là, c'est devenu l'un de mes maîtres à penser. Donc, la polémique ne m'intéressait pas du
avec
tout.
Avec ce roman-là, Le Devoir de violence.
Mais bien évidemment, dès que j'ai commencé à lire, j'étais happé par la force de l'évocation, la puissance de l'évocation qu'il avait. Et surtout aussi quelque chose qui m'avait fait vrombir à la minute, c'était le courage de regarder la violence dans les yeux. Et de dire, c'est pas facile quand on vient de ces périmètres-là, et surtout pendant ces périodes-là où il fallait dire que le diable c'est l'autre, et avoir le courage de se regarder aussi et de souligner un certain nombre de choses avec une radicalité. Et je trouvais ça plutôt très très courageux de sa part d'avoir appelé ce magnifique roman Le Devoir de violence, déjà, et d'avoir mis comme ça la viande tout à fait crue sur la table, mais travaillée par une belle écriture qui a une force d'évocation.
Et la viande crue, c'est quoi, Dieudonné Nyangouna, dans le cadre de ce roman?
La viande crue, c'est l'histoire qu'il raconte. L'histoire qu'il raconte, il la raconte sans concession.
Et il raconte quoi comme histoire?
L'histoire de bande de violence, au fait, en somme, c'est la traversée de ce jeune homme qui part évidemment de cette tradition-là et qui est bousculé entre des choses qui ne sont jamais réglées à l'intérieur donc de son royaume et toutes les violences qui s'accompagnent avec la colonisation, puis qui vont s'en suivre avec son arrivée en France. Et donc ça se continue de trahison en trahison, hein, les trahisons des peuples entre eux pour asseoir des formes d'impérialisme d'abord à l'intérieur de leur royaume, donc qui passe par le massacre, des génocides d'un certain nombre de peuples, puis à la trahison avec l'arrivée de la colonisation où certains vont se liguer avec l'appareil colonial, pas pour être du côté du colon, mais pour trahir les autres. Puis il y a aussi donc ce jeune homme-là qui, à son tour, va connaître une forme de trahison, d'après ce qui est vu, sur comment il s'éloigne des siens, comment il quitte l'endroit auquel on veut évidemment l'assigner. Et ce qui est important, c'est que les passages d'une traîtrise ou d'une trahison à une autre, Yom Ologem les montre d'une manière très très évidente, sans dire que ça c'est mauvais, sans dire que ça c'est bien. Parce qu'il y en avait où pour passer. Et on laisse juger. Donc, du coup, à partir de là, au fait, ce qu'on a, c'est la violence de ce qu'on reçoit quand on est traité de traître ou quand on commet un acte de trahison, parce que des fois, on les commet pour s'en sortir ou pour sortir de l'ombre. La raison est salutaire, mais c'est pas la raison qui est entendue. C'est l'action qu'on voit. C'est le cordon ombilical qui est cassé qu'on regarde. C'est la séparation qu'on regarde. Voilà, donc, et on ne sort pas, évidemment, de ce cercle de tout ce qui est violent comme manière de s'affranchir, comme acte d'affranchissement qui est toujours un acte très, très violent. Moi, c'est ça que je garde au cœur jusqu'à des problématiques de ce personnage qui va devenir homosexuel. Une autre violence dans sa culture, une autre violence avec les siens. Tout est carrément des formes d'ablation. Ablation à la machette. Tchac, 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 on n'arrête pas. Et c'est d'une beauté, ce massacre. C'est un massacre, mais incroyable. C'est d'une beauté, mais.
Alors, on finit par. On finit par une beauté horrible ou un massacre en beauté. Merci beaucoup, Dieudonné Nyangouna, d'avoir ouvert pour nous votre bibliothèque. On se quitte en musique.
Un día bien, un puma negro. El calor va desgarrando el suelo. A 150 van rebasando el ritmo del deseo. A su lado va un Prometeo en un pacto fino en México. Oh. Lo que te encuentras en pedacitos, todo el conspirar. Muerto seis ojos rolando va, alterando el rato.
Au
au son aujourd'hui, c'était Mathieu Leroux, à la réalisation Vivien Demeyer. Un très grand merci à toute l'équipe du Book Club qui prépare et pense ces émissions avec moi, en particulier aujourd'hui à Jeanne Aléo. Si vous voulez retrouver la sélection littéraire de Dieudonné Nyanguna, rendez-vous sur la page du Book Club franceculture.fr. Vous pouvez aussi retrouver tous nos portraits de bibliothèque.
Desgarrando su pensar. Corto mil ojos de plata y sal. Vulnerable, and I know.